Nous allons parler de la maîtrise de soi. Avoir de la maîtrise. Savoir se maîtriser. Je dirais qu'on peut observer dans nos vies combien de personnes sont défaillantes, chutent, passent par des moments terribles parce qu'ils n'ont pas su contrôler leurs émotions, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude spirituelle. On se rend compte combien nos vies peuvent basculer du jour au lendemain au travers d'un manque de maîtrise de soi. On le voit même chaque week-end lorsque nous regardons aux faits divers, des hommes qui se tuent en voiture, des enfants parce qu'ils n'ont pas eu de maîtrise, ils n'ont pas eu de contrôle, ils ont soit appuyé sur une mauvaise pédale, ils n'ont pas su contrôler, ils se sont laissés sévir par un esprit de peur, ils se sont laissés sévir par un esprit de colère, et quelque part, ça a déclenché la mort. Donc Dieu nous invite, et je crois que ce sont des clés importantes pour chacun de nous, et encore plus aujourd'hui qu'auparavant, de prendre conscience de ce don de la maîtrise de soi, de mettre autour de nous des points qui sont des points essentiels, des remparts, mais qui vont nous permettre à chacun, au travers du contrôle de cette maîtrise de ces événements, prendre possession et avoir la victoire sur ces éléments et avoir une victoire dans nos vies. C'est à cela que nous travaillons. Dieu est le Dieu victorieux. Dieu, il est la victoire. Il nous l'a prouvé à la croix au travers de sa résurrection. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons du mal à gérer notre vie, nous avons du mal à gérer nos émotions, nous avons du mal à contrôler certains vecteurs, certaines aires dans nos vies et pour aller de l'avant. Pourtant, il est dans la volonté de Dieu que nous puissions maîtriser ces éléments et avoir le dessus sur ces éléments pour arriver à une vie victorieuse. Et je vais parler de 7 points qui sont des points, des limites que nous devons maîtriser pour avoir des victoires sur nos vies, sur tout ce qui nous entoure dans notre travail et sur les caractéristiques même de ce que Dieu attend de chacun. L'un des premiers exemples, c'est les inquiétudes. Maîtriser nos inquiétudes. On voit bien combien le monde est inquiet, combien lorsqu'on parle aux chrétiens, à tout ce peuple, l'inquiétude qui paralyse, l'inquiétude qui coupe les bras, l'inquiétude qui ôte l'envie de faire, l'inquiétude qui ôte la joie, l'inquiétude qui finalement tétanise les personnes. Et si nous regardons dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6 et verset 27, il nous est dit que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Les inquiétudes ne peuvent pas changer le passé, mais par contre, vos inquiétudes peuvent transformer le présent et votre futur. Les inquiétudes peuvent amener tout ce qui va vous paralyser, tout ce qui va vous emprisonner, alors que Dieu n'est pas le Dieu qui nous dit « sois enchaîné », mais c'est le Dieu libérateur, ce Dieu qui nous dit « ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître tous vos besoins à Dieu ». C'est ce Dieu qui entend, ce Dieu qui a l'oreille attentive à nos prières, à nos supplications, ce Dieu qui désire avoir une relation véritable avec chacun de nous, ce Dieu qui n'est pas insensible à vos problèmes, ce Dieu qui comprend vos difficultés, ce Dieu qui est prêt à vous écouter. Mais ce Dieu, bien souvent, il est absent parce que vous voulez vivre vos inquiétudes, vous voulez les garder pour vous, vous voulez vous en emparer et finalement vous retrouvez prisonnier, accablé même par le poids, alors qu'il nous est dit de faire connaître à Dieu. Faites-lui connaître vos problèmes, faites-lui connaître vos soucis. Si tu as des problèmes d'argent, fais-lui connaître tes problèmes d'argent. Si tu as des problèmes de santé, fais-lui connaître tes problèmes de santé. Il est tout puissant, il peut transformer toutes choses. Il est là, il est avec nous, il est derrière nous, il est celui qui te dit « ne t'inquiète pas ». C'est pas facile. Et ça, c'est dans ta tête, et ça, c'est ta pensée, l'inquiétude. On voit les gens, on a peur, on est inquiet par nature, hein, on est inquiet. Et je crois que dans une société comme aujourd'hui, où l'inquiétude est encore plus forte, où on est inquiet par les images que nous voyons, qui nous terrassent, qui nous font craindre le pire, eh bien nous devons proclamer, nous qui sommes les enfants de Dieu, la parole de victoire. Nous devons rejeter l'inquiétude, nous devons triompher de l'inquiétude, nous devons invoquer, proclamer la parole de Dieu afin que l'inquiétude, eh bien, s'en aille. Il nous a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, dit le Seigneur. Si tu traverses les difficultés, Dieu est là. Si tu invoque-moi et je te répondrai. Vous voyez, des paroles qui vont vous apporter, eh bien, le réconfort, qui vont vous apporter de ne pas vous sentir fatigué, de pas vous sentir terrassé, de pas vous sentir découragé, mais bien au contraire, aujourd'hui, peuple, eh bien, levez-vous et proclamez la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée, la parole de Dieu a été faite chair afin qu'elle devienne vérité. Et vous êtes là pour la proclamer. Vous êtes, c'est ça votre privilège, mes bien-aimés. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes les élus de Dieu et vous avez la parole. Et cette parole, elle a été faite pour vous, afin que vous puissiez la vivre dans vos vies et la voir se réaliser tout autour de vous, dans votre société, dans votre famille. C'est à cela. L'anxiété ne sert à rien. L'anxiété paralyse. Il y a un deuxième facteur sur lequel je voudrais attirer votre attention, et c'est celui de maîtriser la peur. La peur. Vous n'avez pas vu, les gens marchent, ils ont la peur au ventre. Ils ont cette peur qu'ils savent pas où se tourner. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Quand on regarde même, en ce moment, on parle beaucoup d'élections, et on voit bien cette société a peur. Elle a peur. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, eh bien Dieu, là encore, nous appelle à dominer. Rappelez-vous, eh bien, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la première chose qu'ils ont eue, et la première parole, ils ont eu peur de qui ? Ils ont eu peur de Dieu. Ils ont eu peur. C'est la peur. La peur ne vient pas de Dieu, mais la peur vient du malin. La peur n'a pas été donnée par Dieu. Au contraire, Dieu nous dit, fais connaître tes inquiétudes, ne t'inquiète pas. Et si nous voyons le jugement de Dieu dans le jardin d'Éden, bien, c'est parce que l'homme et la femme ne sont pas passés par la repentance, ils ne se sont pas repentis de leur désobéissance, mais ils ont eu peur. Et la peur les a éloignés, eh bien, de la repentance. Savez-vous que la peur est un vecteur d'athéisme ? La peur est un vecteur qui nous éloigne de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont eu peur de Dieu, eh bien, ils se sont détournés de Dieu. Mais si tu n'as pas peur, alors tu vas vers le Seigneur. Dieu n'est pas le Dieu de la peur. Un Père est toujours là, il ouvre toujours les bras, il est toujours prêt à te recevoir, il est toujours prêt à t'entourer de ses bras d'amour. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Rappelez-vous, cette peur qui a été dans le ventre d'Abraham lorsqu'il a dû aller dans le mont Moria et qu'il a dû apporter en sacrifice son fils Isaac, hein, la peur qu'il avait lorsqu'il devait passer par ces instants. Rappelez-vous tout ce que cet homme a pu penser, mais il a été jusqu'au bout parce qu'il avait confiance en Dieu. Et Dieu a été reconnaissant. Dieu, notre Dieu n'est pas le Dieu des abattoirs, mais notre Dieu est le Dieu de la victoire. Alléluia. Hein? On peut regarder dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, où il nous est dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit de force. Mais bien-aimés, Dieu vous a donné un esprit de force. Vous êtes fort. Vous imaginez pas, vous n'avez pas la force physique, la force humaine. Regardez combien vous arrivez à endurer des situations. Combien même vous êtes étonnés de voir comment vous avez pu traverser telle ou telle épreuve. Vous êtes fort parce que Dieu a fait de vous des champions. Il a fait de vous des champions de l'endurance. Il a fait de vous eh bien, des hommes et des femmes qui triomphaient malgré les difficultés. Il y a une force intérieure. Et cette force, elle n'est pas humaine. Cette force, elle n'est pas physique. Cette force, elle vient de Dieu. Cette force, c'est celle qui vous anime chaque jour. Cette force, c'est celle qui vous motive. Cette force, c'est celle qui vous donne de surmonter vos peurs, de surmonter tout ce qui vous entoure. Et Dieu nous a donné, non pas un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. Cette force qui est là pour bannir eh bien, ces peurs. Regardez à David quand il a dû combattre les Philistins. Il y avait toute une armée extraordinaire, tellement elle était nombreuse, et on voit un David avec un petit nombre de personnes, 600. Et ces 600 soldats ont pu combattre eh bien, toute cette grande armée. Regardez, il n'y a pas très longtemps, ce peuple d'Israël qui était vraiment une petite poignée et qui ont pu combattre eh bien, tout un peuple qui était nombreux. C'est à cela, Dieu nous amène à regarder à lui. Et c'est lui qui nous donne de surmonter ses peurs. Regardez lorsque Moïse a envoyé eh bien, 12 espions pour visiter la terre de Canaan, et lorsque les espions sont revenus, ils ont dit, on a vu des géants, le peuple d'Anak, nous étions à leur merci, hein, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Ils se voyaient, eux, peuple de Dieu, ils se voyaient comme des sauterelles lorsqu'ils ont vu les géants. Ils ont eu la peur, ils ont eu l'angoisse, ils se voyaient incapables à leurs yeux. Ils étaient comme des sauterelles. Mais vous pensez que Dieu a fait de vous des sauterelles? Dieu a fait de vous des hommes victorieux et victorieuses. Dieu a fait de vous des combattants. Et Caleb et Josué eh bien, diront, mais si Dieu nous a promis eh bien, cette terre, c'est qu'il sera avec nous et il nous donnera de triompher de nos peurs. La peur. La peur de l'inconnu. On a peur de regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui va nous arriver. La peur d'aller, de prendre des initiatives. La peur qui tétanise, cette peur qui fait qu'une multitude d'hommes et de femmes regardent les horoscopes pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain dans leur vie. La peur qui fait eh bien, qu'il y a un marché florissant au niveau des voyantes et des voyantes pour savoir quel sera leur avenir. La peur du lendemain. La peur de la mort. La peur de l'homme face à tous ces pièges. Hein, et Dieu est celui qui nous protège. Il est celui qui nous protège de toutes ces peurs. Peur du manque d'argent, peur de la trahison. Hein, regardez l'histoire. Judas qui a trahi Jésus, Absalom son propre fils qui a trahi David. Les peurs. Les peurs. Dieu nous invite à rejeter ces peurs, à triompher de ces peurs. Ne regarde pas, ne te focalise pas sur ce qui te fait peur, mais focalise-toi sur la parole de Dieu. Focalise-toi sur Jésus. Il est le rémunérateur de la foi. Il est celui qui te donnera de triompher de toutes les adversités. Un troisième point, maîtriser la colère. Hein, la colère, c'est... On peut comprendre la colère. On vit dans un monde où il y a de quoi être en colère. Des hommes divorcent, femmes, un couple séparé, la rupture, ça met en colère. On comprend qu'une personne qui a eu des abus sexuels se mette en colère. On comprend qu'au niveau professionnel, il y a des colères parce qu'on ne voit pas vos véritables mérites. On comprend qu'on se mette en colère quand une femme eh bien, prend sa place ou sa promotion. On comprend toutes ces choses. On peut se mettre en colère contre Dieu quand il y a la mort d'un enfant, la mort d'un être cher. On comprend tout cela et pourtant, eh bien, le Seigneur nous appelle et nous dit dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » La colère n'est pas bonne conseillère. La colère nous amène bien au contraire à prendre des poids, à ouvrir des brèches et à donner accès aux malins. Le Dieu nous invite à, au contraire, avoir la maîtrise sur la colère, même si on peut le comprendre. Il y a des colères qui sont méritées, des colères, je dirais, où Dieu laisse libre cours. Cette colère-là, nous le voyons au travers de Jésus quand il rentre dans le temple. Il va dans le temple et qu'est-ce qui se passe? Il voit eh bien, un marchand, des marchands de tripots. On se bagarrait, on vendait, on s'échangeait et finalement, il ne comprenait plus ce qu'on avait fait de la maison de Dieu. Et il dira, et il se met en colère, il rejette tout ça. Et on voit, ma maison sera appelée maison de prière. Aujourd'hui, je dirais qu'on pourrait dire la même chose. On voit bien que l'Église est bien souvent confrontée à ses petits problèmes quotidiens, à ses passages, mais elle n'est pas canalisée, focalisée sur la vocation à laquelle le Seigneur l'appelle. Celle de servir Dieu, celle de triompher, celle d'avoir un regard sur le monde, celle de réconcilier l'homme avec Dieu. Et il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin d'être réconciliés. Nous avons là, cette colère est admise de Dieu. Mais il y a des colères qui sont rejetées de Dieu. La colère sainte de Dieu, elle a été vécue par le Seigneur lui-même. On voit une colère qui a été rejetée, c'est celle de Moïse. Rappelez-vous Moïse, le peuple avait soif. Et Dieu dit, eh bien, tu vas parler à ce rocher et il te donnera de l'eau. Et Moïse était en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le rocher. Hein, le rocher, c'est l'emblème de Jésus, le rocher des siècles. Et pour cela, il n'a pas pu voir la terre promise. Il s'est rebellé, il a été contre Dieu. Combien de fois, lorsqu'il nous arrive de tels événements, combien de fois, au travers de telles situations, et on peut le comprendre, un divorce, un décès, une maladie, il y a la rébellion contre Dieu. On peut comprendre notre désarroi, on peut comprendre toutes ces choses-là, mais Dieu veut que nous regardions à lui, que nous nous attendions à lui. Il n'est pas celui qui nous envoie des calvaires, mais nous savons une chose, c'est que les difficultés, nous pouvons les vivre au quotidien. Regardez cette colère qu'a eu Caïn et Abel. Il a tué Abel par jalousie. C'est des colères. Combien de personnes ont mis leur vie en danger, se retrouvent en prison aujourd'hui parce qu'un jour, lorsqu'ils étaient en voiture, ils se sont mis en colère contre une telle personne, telle parole, et puis ils n'ont pas hésité à aller jusqu'aux mains. Et puis, ça suffit de 5 minutes, peut-être 2 minutes, peut-être 1 minute, pour se retrouver pendant 20 ans dans une prison. La colère. La colère, elle a des conséquences et le malin s'en sert. Ce sont des armes du malin. Ce sont des armes que le malin utilise, pas pour que nous triomphons, mais pour nous emprisonner. Le quatrième point, c'est maîtriser la dépression. C'est des points importants, hein. C'est pas facile. Vous n'avez pas remarqué, on a l'impression que le monde, en ce moment, il ne sait plus comment il va. On a l'impression que les gens ils sont tous devenus quelque part un petit peu fous. Entre guillemets. On a le sentiment, même les gens qu'on connaît, hein, qu'on fréquente, etc., on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On ne sait pas. Et on voit là eh bien, combien la dépression agit, combien cet esprit de dépression amène eh bien, les personnes à avoir des comportements qui ne sont pas sereins, qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas dans la paix. Dans le livre de Job nous dit au chapitre 3, verset 3, « Périsse le jour où je suis né ». Combien cette parole elle a été proclamée cette année. Des milliers et des milliers de personnes qui ont dit cette même parole, « Je préfère mourir plutôt que de vivre cette vie. Pourquoi je suis né? À quoi ça sert? Je ne suis pas fait pour ça. Hein ?» Combien ces paroles ont été proclamées dans le quotidien. Mais je dirais que Dieu nous invite non pas à rentrer dans la dépression, parce que la dépression va nous lier, mais à sortir de la dépression, hein, à donner de l'importance à ce qui a de l'importance et à rejeter ce qui est mineur. Regardez combien on est focalisé par rapport aux petites choses. Pendant ce temps-là, on perd notre temps, hein, plutôt que de regarder à de grandes choses et de se battre. Hein, on voit bien combien la main du malin nous focalise sur les petites choses pour te faire perdre ton temps, pour te faire perdre ton énergie, pour te faire perdre l'efficacité dans le travail de Dieu. C'est extraordinaire. Et toutes ces clés, tous ces points, eh bien, ils sont en action en même temps. Ce que vous vivez au travers de la peur, vous le vivez au travers de vos inquiétudes, vous le vivez au travers de cet esprit de dépression. Tout ça, c'est ce qui se passe autour de vous. Autour de chacun de nous. Alors, on voit bien, il y a des hommes qui ont été remplis, hein, de Spurgeon, qui était un homme de Dieu. Il était dépressif lorsqu'il a vu toutes les machinations qui se sont effectuées pour diviser l'Église. Nous voyons des hommes aussi comme Abraham Lincoln. Nous voyons même des hommes comme Churchill, qui étaient très dépressifs, pourtant des hommes qui étaient des hommes d'État, et qui, à des moments, au travers de leur dépression, mieux vaut pas me regarder ce jour-là parce que je suis tétanisé par la dépression. Pourquoi tant de dépression? Les déceptions, le manque d'amour de soi, comparaison de notre vie à quelqu'un d'autre, pourquoi moi? Se sentir inutile, la parole de Dieu nous dit « Fais tout ce que ta main trouve à faire ». Mais ça, on n'aime pas faire. Mais par contre, se sentir inutile, on aime. Qu'on est installé. Aussi, les médicaments qui sont souvent des moyens thérapeutiques, mais qui aussi maintiennent les hommes, eh bien, dans un certain état, hein, qui les empêchant d'avoir des réactions vives. Alors, on voit toutes ces choses. Et la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein? Ne vous focalisez pas sur le siècle présent. Ne rentrez pas, ne soyez pas déprimés par le siècle présent. Nous ne sommes pas de ce siècle, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Focalisons-nous sur la cité céleste, c'est là notre habitation, c'est là notre véritable demeure. Focalisons-nous sur le Seigneur Jésus. Ce que vous vivez sur terre n'est qu'un grain de paille par rapport à l'immortalité, ce qui nous attend, mes bien-aimés. Lorsqu'on est focalisé sur les choses réelles, alors tout devient dans une autre dimension et on peut prendre le dessus et on peut triompher de ses adversités. Chercher la paix de Dieu en toutes circonstances. Décider d'être enthousiaste, même si ça ne va pas. Si vous voyez que tout chavire, que le matin, en vous levant, vous ouvrez la boîte aux lettres et que vous avez une amende, un PV, etc. Soyez enthousiaste, ça ne changera rien. Vos pleurs, votre dépression, votre déprime, au contraire. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'est la timidité, ce n'est pas une vertu. C'est l'humilité qui est une vertu. Être humble, c'est une chose. Être timide, c'est une faiblesse. Dieu ne nous appelle pas à être remplis de faiblesse. Mais au contraire, l'humilité, c'est ce que nous avons, ce que nous représentons. C'est ce qui est différent de l'orgueil. Mais la timidité, ce sont des axes qui nous empêchent, eh bien, de parler de la vérité, de dire les choses clairement, de pouvoir s'exprimer. C'est ça l'esprit de timidité. L'esprit de timidité vous empêche. On me dit souvent, mais tu sais, lorsque on prend un rendez-vous avec toi, avant de prendre un rendez-vous, souvent on est un peu tétanisé, on a peur, et puis avant de prendre, on a besoin de réfléchir, etc. Pourtant, tous ceux qui ont pris un rendez-vous avec moi, eh bien, ils se sont pas adressés à un ogre. Hein, au contraire, ils ont pris du temps. On a pris du temps ensemble, et ça a permis, eh bien, d'éclairer les personnes, de les soutenir. C'est l'esprit de timidité qui empêche. C'est cet esprit. C'est un esprit de faiblesse qui tétanise, qui empêche même de proclamer la parole de Dieu. Pourquoi il est dit, eh bien, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Parce que nous proclamons la parole de Dieu. Elle a une action. C'est à cela que Dieu nous invite, à ces choses-là. Maîtriser les ressentiments. La rancune, tout ce qui est un, toutes ces rancunes que nous avons accumulées dans le cœur, qui est un poison pour nos vies. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 1, nous dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par lequel il arrive. » Des scandales, on en voit tout le temps. Vous ouvrez les journaux, il n'y a que des scandales. Mais le Seigneur nous dit « C'est pas... » par les scandales que tu vas arriver à quelque chose. Ce n'est pas la rancune que tu vas accumuler. C'est pas, ça va t'amener à avoir de l'hostilité. Ça va t'amener à avoir de l'anxiété. Ça va t'amener à avoir un esprit de condamnation. Voilà à quoi ça va te porter. Le Seigneur, bien au contraire, il te demande de sortir. Il te demande eh bien, de voir. On vit dans un monde où finalement, les hommes et les femmes sont souvent des marionnettes. Elles sont manipulées. On ne sait pas pourquoi il y a des esprits qui manipulent, et c'est comme un jeu avec un échiquier, et puis il y a le grand manipulateur qui est là et qui se sert eh bien, des êtres humains pour les mettre à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit. Ne rentrons pas dans les pièges du diable. N'oublions pas que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. La réconciliation, ça ne veut pas dire, eh bien, ça veut dire dans son cœur, ne pas avoir de poison. Parce que ce poison, si vous le gardez dans votre cœur, eh bien, il vous atteint. Le sixième point, c'est la maîtrise et maîtriser le manque de pardon. C'est un domaine. Le manque de pardon. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 2, il est dit, « Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On voit que le pardon, ça n'a rien à voir avec la repentance, le pardon. Le pardon, c'est ces hommes qui ont apporté un paralytique à bras d'homme et qui l'ont amené à Jésus, ces quatre hommes, et Jésus, voyant leur foi, eh bien, a dit, eh bien, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Il y a là un courage. Cette femme à la perte de sang qui s'est frayé un passage. Il y avait le désir pour cette personne, eh bien, de rechercher la guérison. Et le pardon amène à la guérison. Si tu as des manques de pardon, tu gardes en toi comme des fardeaux, des boulets, et qui ressortent tout le temps dans ta vie. Ça peut aller même de ton enfance et te poursuivre jusqu'à la fin de tes jours. Le manque de pardon. Maîtriser ces choses-là.